Vous écoutez, on lit pour vous.
Si le sort des Afghanes nous intéresse. Un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 septembre 2024 dans La Presse. En 2023, en soufflant ses bougies d'anniversaire, Niloufar a fait un vœu qu'elle savait impossible à réaliser. J'aurais aimé naître à une autre époque ou dans un autre pays. Niloufar est une brillante ingénieure afghane de 32 ans qui attend depuis près d'un an un permis d'études d'Immigration Canada. Avant la chute de Kaboul, la jeune féministe, première de sa promotion, avait réussi à se frayer un chemin dans un monde d'hommes en décrochant un poste important au sein de l'administration afghane. Elle enseignait aussi à l'université et avait prévu poursuivre ses études avec un rêve en tête. Devenir la première femme ministre du développement en Afghanistan. Depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021, le rêve de Niloufar, comme celui de millions d'Afghanes qui se butent à un régime d'apartheid misogyne, est cruellement mis à mal. Niloufar affirme avec tristesse lors d'un entretien par visioconférence « Ma situation est très difficile ». C'est comme si mon existence avait été effacée du monde réel depuis 3 ans. Je pensais que j'étais un être humain dans mon pays. Aujourd'hui, je sens que je ne suis plus un être humain. Militante pour les droits de la personne, Niloufar a toujours refusé de se taire devant le pouvoir taliban en Afghanistan. Sa tête y est mise à prix. Craignant pour sa vie, elle a été forcée de fuir son pays. Dans l'attente d'une réponse d'Ottawa, sa vie et ses rêves sont en suspens dans un pays limitrophe qui refuse de donner un statut aux ressortissants afghans. J'ai perdu mon travail. Je ne suis plus une citoyenne. C'est comme si j'étais considérée comme une criminelle. Le seul crime de Niloufar est d'être née femme dans un pays qui nie toute liberté aux femmes et ne veut même plus entendre leur voix. C'est tout juste si on ne leur interdit pas de respirer. Défiant les interdits des talibans, Niloufar résiste en donnant bénévolement des cours en ligne clandestins à de jeunes filles afghanes qui continuent d'étudier au péril de leur vie. Elle espère qu'en obtenant un diplôme au Canada, elle pourra aider davantage de femmes en Afghanistan. Je veux me battre pour les droits des femmes en Afghanistan. L'école leur est interdite après la 6e année. C'est un grave problème pour la moitié de la population qui n'a pas droit à l'éducation. Si une femme afghane peut améliorer son éducation, elle peut en aider d'autres. Niloufar fait partie d'un groupe de femmes afghanes exceptionnelles, leaders dans leur domaine, génie, médecine, droit, etc., que l'avocate Gabrielle Thibouteau et l'organisme québécois pour les réfugiés tentent de faire venir au Canada afin qu'elles y poursuivent leurs études et leurs rêves. Ce qui est effarant, c'est que le Canada, qui a fait la guerre en Afghanistan en mettant de l'avant le droit des femmes à l'éducation, refuse à Niloufar et à d'autres d'obtenir ce même droit chez nous. La demande de permis d'études de Niloufar déposée en novembre 2023 a été refusée par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. Motif du refus? IRCC ne semble pas croire qu'elle a l'intention de quitter le Canada après ses études, estimant qu'elle n'a pas d'attache suffisante à l'extérieur du pays. C'est pourtant faux, donne son avocate, qui a demandé une révision de la décision. On soumet des preuves que ces femmes veulent faire partie de la résistance en Afghanistan au péril de leur vie. Elles veulent également rejoindre des membres de leur famille qui sont dans des tiers pays. Le refus d'IRCC est d'autant plus incompréhensible que Gabrielle Thibouteau et l'équipe bénévole soutenant ces Afghanes se sont assurés de soumettre des dossiers exemplaires. Les candidates ont été triées sur le volet, sur la foi de recommandations de défenseurs des droits de la personne et de vétérans. Elles ont toutes obtenu des bourses d'études d'université ou de collège canadien. On a amassé les fonds nécessaires pour les accueillir convenablement. On a veillé à ce qu'elles puissent être logées sur le campus universitaire ou dans des familles d'accueil afin qu'elles ne constituent pas un poids additionnel dans un contexte de crise du logement. On a aussi proposé au cabinet du ministre fédéral de l'Immigration, Mark Miller, une politique d'intérêt public pour pérenniser l'initiative et assurer un traitement prioritaire aux étudiantes dont le droit à l'éducation est bafoué par les talibans. Malheureusement, en dépit de tous ces efforts, la seule chose qui semble avoir été pérennisée pour le moment, c'est l'inaction et le silence d'IRCC. Honnêtement, je ne sais plus quoi dire à IRCC à part « Qu'est-ce que vous voulez de plus de nous ?» dit Gabriel Thiboutot. En attendant son permis d'études qui lui redonnerait espoir, Niloufar se sent habitée d'une profonde amertume. « Je me sens triste, » dit-elle, « en pensant à l'écart entre la personne que je suis devenue et celle que j'aurais pu être si j'étais née dans un autre pays. » Parce que l'on ne me permet pas de vivre la même vie que les gens libres. Elle a l'impression d'être traitée comme une criminelle, elle qui n'a pourtant commis aucun crime, répète-t-elle. Je n'ai pas le même droit à l'égalité que si j'étais née ailleurs. Je suis une citoyenne de seconde zone, et c'est un sentiment terrible. Je lui demande s'il y a un message en particulier qu'elle aimerait livrer à ceux et celles qui liront cette chronique. Un lourd silence suit ma question. Puis elle dit « Les femmes afghanes se sentent vraiment seules. Elles ont besoin du soutien des gens partout dans le monde et du Canada afin qu'ils pressent leur gouvernement de soutenir le droit à l'éducation des filles afghanes et leur droit à une vie meilleure. Une vie où exister ne serait pas un crime. » C'était « Si le sort des Afghanes nous intéresse », un texte de Rima El-Khoury, paru le 22 septembre 2024 dans La Presse.
Quand le bien-être des enfants prend toute la place, un texte de Gabriel Tremblay-Baillargeon, paru le 3 mai 2024 dans Urbania. Mes parents, comme la plupart des parents des années 1990, n'avaient pas peur de me crier dessus. Pas tout le temps, là, rassurez-vous, mais si on n'écoutait pas ou qu'on chialait un peu trop, disons que le « va dans ta chambre » n'était jamais bien loin. Maintenant que je suis mère à mon tour, un vent de changement souffle et il souffle pas mal fort. Je pratique, comme presque tout le monde autour de moi, la parentalité positive. Quand je hausse le ton, je me sens coupable durant des heures, et je ne suis pas la seule. Selon un sondage très scientifique réalisé auprès des parents de mon entourage, l'anxiété règne en maître. Si j'ai toujours aspiré à une parentalité bienveillante, je commence à me questionner sur la manière dont elle me fait sentir. Coudon, sais-tu ça être un bon parent? Je suis loin d'être la première à ajouter une pierre à l'édifice de cette grande remise en question collective. Ces temps-ci, plusieurs podcasts, articles et posts Instagram, on ne peut pas y échapper, remettent en question notre anxiété de performance parentale collective. On souhaite élever nos enfants au meilleur de nos capacités, mais ce faisant, est-ce qu'on se met trop de pression pour être parfait? Et surtout, est-ce que notre désir d'être le meilleur parent possible peut finir par nuire à nos enfants? Plus qu'une tendance. La parentalité positive, ou bienveillante, ça dépend d'à qui vous parlez, est omniprésente dans l'écosystème parental occidental. L'approche prône, entre autres, un accompagnement soutenu des émotions de son enfant et une communication horizontale basée sur l'échange et la compréhension mutuelle. C'est un courant à la mode, oui, mais c'est aussi une technique d'éducation qui se base sur la science. C'est vrai, les études démontrent que le style parental démocratique, qui offre un encadrement empreint d'écoute et de compréhension, résulterait en un développement psychologique, social et cognitif optimal. Les enfants qui bénéficient d'un cadre bienveillant seraient donc plus heureux et en meilleure santé. Être un parent empathique qui accueille les émotions de son enfant est devenu l'idéal à atteindre. Même si la France a largement critiqué la tendance en 2023 et que plusieurs scientifiques ont critiqué les dérives du mouvement, l'approche a fait ses preuves. Sur les réseaux sociaux, des professionnels de la petite enfance se créent des comptes Instagram bourrés de trucs pour parfaire la méthode au quotidien. En parallèle, ils et elles en profitent généralement pour vendre des programmes de formation ou du coaching pour accompagner les parents qui souhaitent encadrer leurs enfants au mieux de leurs capacités, sans leur crier dessus. C'est le cas de Krista Leto, cofondatrice de Cœur en tête et détentrice d'une maîtrise en psychoéducation. Sur son compte Instagram, on retrouve plusieurs contenus axés sur la parentalité positive, dont plusieurs pourraient être qualifiés de « hot takes ». Les émotions ne font pas peur aux enfants. Être laissé seul avec les émotions est ce qui fait peur aux enfants. Peut-on y lire ? C'est sûr que de croiser ce genre de phrase choc dans ton feed entre une vidéo de « Get Ready With Me » et le déjeuner de ton ex-collègue, c'est surprenant. Reste que tout le contenu de « Cœur en tête » est basé sur de la recherche et créé par des professionnels chevronnés, qui plus est. Parmi elles, la docteure en neuropsychologie Caroline Robinson a activement participé à la mise en place de l'entreprise et de ses contenus. C'est peut-être ça, comme parents, qui nous angoisse autant, de savoir qu'il y a une bonne et une mauvaise manière de faire les choses. On a beaucoup plus de connaissances qu'avant. Ça fait en sorte qu'on se met la barre plus haute. On veut devenir un parent qui met des limites, mais qui est en même temps chaleureux, qui ne lève pas le ton, qui est présent pour son enfant. Mais ce n'est pas ça, la vraie vie, relate Julie Lessard, professeure titulaire au département des fondements et pratiques en éducation de l'Université Laval. À l'heure actuelle, la professeure et son équipe développent un outil pour évaluer le sentiment de honte et de culpabilité vécu par les parents qui connaît une ascension vertigineuse depuis quelques années. Vous écoutez « Quand le bien-être des enfants prend toute la place », un texte de Gabriel de Tremblay-Baillargeon paru le 3 mai 2024 dans Urbania. Pas le droit à l'erreur. Selon l'enquête québécoise sur la parentalité de 2022, 48% des parents disent s'imposer souvent ou très souvent de la pression concernant la façon dont ils s'occupent de leurs enfants. Et ces attentes-là, elles ne viennent pas des amis, du voisin ou des grands-parents. C'est celle des parents envers eux-mêmes. Tout ça part d'une bonne intention, le désir d'offrir le meilleur à son enfant, explique Chloé Gaumont, psychoéducatrice. Dans ses cliniques de Saint-Bruno de Montarville et de Saint-Lambert, la professionnelle de la petite enfance a rencontré plusieurs parents qui présentent, me confie-t-elle, une grande peur de traumatiser leur enfant. Rien de moins. Il y a un désir de tout faire à la perfection. Les parents ne se laissent pas la chance de faire des erreurs, poursuit la psychoéducatrice. Parfois, quand je perds patience après mon fils, je peux me sentir mal pendant des jours. J'imagine le pire. Je me dis que si je continue, il va devenir un homme violent, plus tard, me dit Fanny, à moitié à la blague, à moitié en panique. Brigitte, mère d'une petite fille de 4 ans, connaît trop bien le sentiment. J'ai l'impression qu'à la seconde où on déroge un peu de l'accueil et de la bienveillance, on se tape sur la tête, me confie-t-elle. Ce cycle-là est vicieux. Les parents apprennent des techniques d'éducation bienveillante et tentent de les appliquer au mieux de leurs capacités. Lorsque celles-ci ne fonctionnent pas pour une raison ou pour une autre, ils se découragent et deviennent anxieux. ça entraîne une espèce d'hypervigilance. On n'est plus dans le moment présent avec notre enfant parce qu'on pense à la manière dont on doit agir ou lui répondre, souligne Chloé Gaumont. On le devine, cette anxiété n'est pas très bénéfique pour le parent. La culpabilité et la honte peuvent avoir un impact sur son estime de soi, mais aussi entraîner des symptômes dépressifs. Les parents ont l'impression qu'ils cumulent des échecs alors que ce ne sont pas des échecs, c'est de l'apprentissage, relate Chloé Gaumont. Ce que les cliniciens tentent à démontrer, précise-t-elle, c'est que des interventions qui sont appropriées, le tiers du temps, vont soutenir le bon développement d'un enfant. Vous avez bien lu, le tiers du temps. Aïe aïe, ça fait mal. Difficile de ne pas entrevoir ici un lien avec la maternité intensive, un concept théorique développé au tournant des années 2000. Celle-ci consiste en une vision de la maternité ancrée dans une sensibilité accrue aux besoins émotifs et psychologiques des enfants, mais surtout une forme de sacrifice de soi à sa progéniture. En gros, il s'agit de la mentalité du « mon enfant, c'est toute ma vie ». Les études ont démontré que la maternité intensive, accentuée par la démocratisation des connaissances liées à l'éducation des enfants et à la propension des mères à s'informer davantage sur les pratiques parentales, a nettement augmenté le niveau d'anxiété de performance des parents de ma génération. À trop vouloir bien faire, les mères développent une grande culpabilité face au temps passé avec leurs enfants, à la manière dont elles l'occupent, mais aussi à toutes les façons dont elles tissent et nourrissent un lien émotif avec eux. Malgré tout, Krista Leto croit que les sentiments négatifs vécus par les parents ont une utilité. Quand on se sent mal, c'est souvent parce qu'on agit à l'extérieur de notre cible, indique la cofondatrice de Cœur en tête. Et c'est vrai, si on ne souhaite pas être un parent qui crie pour rien, c'est sûr qu'on n'a pas envie de s'applaudir après l'avoir fait. Malgré tout, cette culpabilité-là nous permet de grandir, de nous observer et, qui sait, de défaire quelques nœuds au passage. En prendre et en laisser. Est-ce que ce ne serait pas ça le problème au fond avec la parentalité bienveillante? On demande aux parents d'accompagner leur enfant dans ses crises et ses débordements en nous expliquant que son cerveau n'est pas assez mature pour s'auto-réguler quand nous-mêmes, en tant qu'adultes, on a encore de la difficulté à le faire. C'est un idéal qui n'est pas possible à atteindre. Ça ne tient pas compte du fait qu'on est des humains et que nous aussi, on a des réactions qu'il faut savoir gérer, pense Julie Lessard. C'est certain qu'en tant que parents millénariaux qui ont grandi à une époque où fumer en dedans d'un Saint-Hubert relevait de la normalité et où nos émotions d'enfants étaient plus souvent réprimées qu'accueillies, la parentalité bienveillante semble loin de ce qu'on a connu. Qui plus est, les parents ont tendance à reproduire le style d'éducation qu'ils ont reçu. Et défaire des pratiques ancrées en soi, ça demande pas mal de job. Quand je compare la façon dont j'ai été élevé et la façon dont j'aimerais élever mon fils, c'est deux mondes opposés. J'ai des réflexes qui me viennent et j'essaie de les éviter au possible, mais il n'empêche que je les ai, explique Alexia, maman d'un petit garçon qui vient tout juste d'entrer dans son terrible tout. Dernièrement, une résurgence du modèle du « good enough parent » semble émerger sur les réseaux sociaux. Soyez doux avec vous-même. Il n'y a pas de parent parfait, écrivait Cœur en tête sur son compte Instagram la semaine dernière. Exit les publications directives. Bonjour la compassion. Si une certaine fatigue se fait sentir chez les parents, les spécialistes n'ont pas d'autre choix que d'embarquer dans le bateau. Écrasés par le poids d'une perfection inatteignable, certains parents quittent, de manière partielle ou totale, le modèle positif qui génère en eux trop de pression. J'ai l'impression d'avoir été un peu aveuglé par le courant de la parentalité positive. j'ai tellement cru mordicus que c'était important que je ne me suis pas informé sur les autres méthodes d'éducation. Aujourd'hui, si je pouvais faire les choses différemment, je le ferais, indique Brigitte. Je suis loin de quitter la parentalité bienveillante, mais disons que dernièrement, je me sens moins coupable de mettre des limites de manière plus ferme. Un petit « OK, ça suffit » est vite arrivé, mais s'il est entrecoupé de rigolades, de câlins pendant les crises et de tours de passe-passe pour arriver à mettre la Christie de tuc avant de sortir de la maison, je pense que c'est correct. C'était « Quand le bien-être des enfants prend toute la place », un texte de Gabriel Tremblay-Baillargeon paru le 3 mai 2024 dans Urbania.
Henri et Simon, les jumeaux queer derrière Kinkead. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue. Les jumeaux Kinkead lanceront Henri et Simon, un deuxième album dans lequel ils poursuivent leur exploration des sonorités indie-pop planantes et pimpantes. Fugue leur a parlé quelques jours après leur prestation à la fête Arc-en-Ciel de Québec. Qu'avez-vous vécu de marquant depuis la sortie de votre premier album, Migration, en 2020? Henri, j'ai lancé un nouveau projet créatif à l'extérieur de Kinkead qui s'appelle Héron. Ça m'a fait voir la pertinence de notre projet commun et à quel point c'est précieux de se retrouver entre frères. Simon, Migration décrivait nos trajectoires personnelles dans un espace de coming of age identitaire. Ça brassait plein de questions en lien avec nos cheminements personnels et nos orientations sexuelles respectives. Le nouvel album est un album de transition qui reflète qui on était au moment de l'enregistrement. Henri a commencé son projet solo. De mon côté, j'entreprends une maîtrise en anthropologie. À quoi ressemble votre processus créatif? Simon. En général, on écrit chacun de notre côté le cœur d'une chanson, avec des idées de paroles assez avancées. On se les partage et on avance l'écriture ensemble. Sur notre nouvel album, il y a aussi quelques chansons écrites ensemble à 100%. Henri, je ne sais pas si c'est parce qu'on est jumeaux et qu'on a des bannes depuis qu'on a 10 ans, mais on comprend toujours nos intentions. On a une très bonne communication, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Parfois, nos égos étaient peut-être plus impliqués. Simon, entre les deux albums, il a fallu faire une transition dans notre façon de communiquer. Avant, c'était quelque chose de plus télépathique. Du genre, on se comprend tellement bien qu'on n'a pas besoin de se parler. Puis, on a atteint une maturité qui nous a fait prendre conscience que les relations humaines impliquent qu'on doit se parler, au lieu de tenir pour acquis que l'autre va tout comprendre. Comment comparez-vous les arrangements des deux albums? Henri, puisque Migration était un truc très intime, la production musicale était peut-être moins proche de quelque chose de très familier pour nous, de la musique festive et rassembleuse. Cet album-là s'approche plus de ce qu'on écoutait quand on était jeune. Simon, notre père avait le contrôle de la playlist. On a écouté beaucoup les Rolling Stones et Fleetwood Mac, que maman aimait beaucoup aussi, en plus de certains trucs keb comme Beau Dommage. On aime un esprit de groupe avec une saveur vintage et des harmonies vocales auxquelles on tient beaucoup. À quel point le son vintage est-il facile à créer pour vous? Henri, on est naturellement porté à composer des mélodies et des formes de chansons qui se rapprochent de ce qui se faisait dans les années 1970 et 1980. Et puis, avec les techniques de production moderne et nos influences d'aujourd'hui, ça nous ramène à quelque chose de plus moderne. N'empêche que le cœur de nos chansons ressemble davantage à ce que les auteurs-compositeurs folk de l'époque auraient pu faire. Sentez-vous que vos plumes se transforment? Henri, je pense qu'une finesse se développe. Quand on veut donner dans la simplicité, on est plus précis pour dire les choses telles qu'elles sont. Et quand vient le temps d'être plus dans le storytelling, avec un côté métaphorique, le message est plus clair. Simon, plus on vieillit, plus on apprend à devenir qui on est artistiquement. On essaie moins de faire du style pour faire du style. Un naturel se développe avec le temps. Comment s'exprime votre queerness dans votre art? Henri, c'est toujours un souci dans l'écriture, l'interprétation et comment je me présente, car ça m'habite au quotidien. Dans la chanson « Parle-moi », il y a une sensualité qui saute aux yeux. J'avais envie d'écrire à propos d'une rencontre romantique entre deux gars et je trouvais ça important d'exprimer cette sensualité sur l'album. Dans la plupart des looks de nos photos de presse, il y a un souci que ce soit queer, de jouer avec les couleurs, le fil du vêtement, la sensualité, la part de nudité, etc. Simon. Pour moi, Kinked est une plateforme pour exprimer ce côté queer qui habite moins mon quotidien que celui de Henri. À l'époque de migration, mon orientation sexuelle était un grand questionnement et même une souffrance à certains égards. Aujourd'hui, je vis presque exclusivement des relations hétérosexuelles. Je me considère encore bisexuel, mais je me vois aussi à une intersection entre être un allié et faire partie de la communauté. C'est une posture particulière. Je veux respecter les enjeux des communautés LGBTQ+, tout en appréciant de les célébrer pour moi et pour Henri. C'est un message important à porter. Dans mes chansons, je veux m'éloigner des clichés de la chanson d'amour masculine. Dans le vêtement, j'ose certaines choses que je fais moins souvent. Je joue sur les codes en restant fidèle à qui je suis. Est-ce que ton frère te pousse à aller plus loin esthétiquement? Simon. À la base, je m'assure de toujours être à l'aise. Si je ne porterai jamais un morceau dans les vies et que je le fais juste pour le show, je trace la ligne. Henri va dans des directions plus osées, mais on respecte nos limites respectives. Dans notre identité visuelle, on veut une esthétique queer, sans aller dans le cliché ni dans l'appropriation. Je suis très sensible à ça. Henri, Simon a une posture très responsable et respectueuse là-dedans. Je suis très fier de ce qu'on présente, de notre dualité de jumeaux avec des personnalités et des identités sexuelles différentes. C'était Henri et Simon, les jumeaux queer derrière Kinked. Une entrevue réalisée par Samuel Larochelle, parue le 24 septembre 2024 dans le magazine Fugue.